Alors ce matin, quelques mots. Vous savez que ça vous a pas échappé, j'espère, que nous sommes dans la période de l'Avent. Et alors nous, en tant qu'évangéliques, on n'a pas tellement de liturgie en général. Ça part dans tous les sens, etc. Et puis il y a des très bonnes choses. Mais bon, l'Église protestante, l'Église catholique et certaines églises réformées évangéliques, elles ont un calendrier et elles suivent une liturgie qui a du sens. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de liturgie, nous. On en a une, elle est cachée, elle n'est pas dite, mais elle est là. Mais j'ai été étonné ce matin des paroles qui ont été dites et échangées. En fait, elles correspondent à la liturgie en ce moment de l'Avent. C'est un truc de dingue. J'ai dit, mais alors là, par exemple, lorsqu'Alana dit, parle de faim et de soif. Vous avez faim et soif. Eh bien, c'est dans cette liturgie de l'Avent, on creuse la faim et la soif. Quand il est parlé de la lumière, alors c'est Hanouka bien sûr pour les juifs, mais c'est aussi la lumière pour nous chrétiens, et il y a des textes sur la lumière qui sont lus en ce moment même dans toutes les églises du monde entier. Donc il y a un lien, donc j'aimerais parler de cet avant, et le Seigneur nous parle au travers de cette période, et j'aimerais relever plusieurs mots. Donc le mot avant, nous sommes au deuxième dimanche de l'avant, le premier c'était dimanche dernier. Et l'avant, ça veut dire la venue, ça veut dire l'avènement. Donc nous sommes dans cette période où on célèbre, on prépare l'avènement, la venue. C'est une période dans toute l'Église dans le monde où il y a une préparation intérieure. Donc les fidèles sont appelés, nous chrétiens, nous sommes appelés à nous préparer intérieurement. C'est une période à part dans l'année. On prépare à célébrer Noël, cet événement, l'incarnation du Fils de Dieu, mais on se prépare aussi dans ce temps qui nous rappelle que Jésus est venu et reviendra. Donc c'est ça aussi, on est dans cette attente pas passive, mais une attente de la foi. C'est une période qui est un appel dans les textes qui sont lus, dans les prières qui sont faites, c'est une période qui est faite pour un appel à la transformation, à la repentance, à la confiance. Donc c'est tout ça. Il y a deux mots qui ressortent, que j'aimerais faire ressortir ce matin. Dans ce temps d'attente, c'est le mot « attente ». Et qui n'est pas incompatible avec la foi. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que Josué, on commence à savoir ce que c'est l'attente. Hein? L'attente dans la foi. J'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Nous avons reçu avant-hier soir, on a reçu tous les plans refaits par l'architecte Yves Forner. Donc je les ai dupliqués, on a tout reçu. Ils sont faits avec les changements qui ont été demandés par le pompier. Et donc, ce que je vous proposerai, c'est, on prendra une carte là au fond de Claire, en tant qu'église. Et ce que j'aimerais, c'est que je ferai un mot de remerciement. Il a travaillé bénévolement pour nous, encore depuis des années, hein, mais là, il a tout refait. Et donc, simplement, une signature de chacun, ou un merci, et moi je ferai le petit mot, merci pour les plans, tout ça. Voilà, donc si quelqu'un peut, si Tétane, tu peux, je sais pas, une carte, tu choisis, et puis au niveau, en tant qu'église, ne sortez pas sans des signatures, j'aimerais qu'on lui offre vraiment ceci. Donc voilà, l'attente et une vie spirituelle qui est vraiment épanouie, elle ne repose pas sur la satisfaction d'avoir été trouvé par Dieu, ou d'avoir trouvé Dieu. Je répète, une vie spirituelle, ça repose pas sur la satisfaction d'avoir été trouvé par Dieu ou d'avoir trouvé Dieu. Une vie spirituelle, elle est basée aussi sur le fait de ne jamais cesser de le chercher, de chercher Dieu. Et donc cette période de l'Avent, c'est une période où on est encouragé à le chercher, tous ensemble. La dignité de notre personne en tant que... Alors là, je vais plus loin que simplement les chrétiens, mais ça touche les chrétiens, mais l'homme, la nature, le statut d'homme. La dignité, c'est que nous sommes des êtres de désir. C'est ce qui nous distingue du règne animal, végétal. On est des êtres de désir. Oscar Wilde, vous savez, c'est un écrivain américain qui disait « En ce monde, il n'y a que deux tragédies. » L'une consiste à ne pas obtenir ce qu'on désire, et l'autre à l'obtenir. Et cette dernière est de beaucoup la pire. Cette dernière est une réelle tragédie. Avoir obtenu tout ce qu'on désire. Donc, une vie chrétienne où on a l'impression qu'on a tout obtenu, tout est bon, c'est bon, on roule en roue libre, où il n'y a plus de désir, il n'y a plus de vie spirituelle, il n'y a plus rien. Donc la période de l'Avent, c'est une période qui a été, je pense, inspirée pour que dans l'Église du Seigneur, on cultive le désir et on travaille cette attente qu'on pourrait appeler l'attente de la foi. S'il y a un thème qui vient de la Genèse à l'Apocalypse, qui est partout, c'est justement ce thème du désir, le Cantique des Cantiques, bien sûr, au centre des Écritures, qui nous parle du désir de Dieu, et qui fait cette alliance avec, comme un époux, une épouse, mais une célébration du désir absolument étonnante. Et le mot avant, donc ça veut dire ce qui advient, mais il y a aussi, c'est le même mot, je ne sais pas si vous avez remarqué, notre mot aventure. L'aventure, il y a le mot « avant » dedans. Et en fait, dans cette période de l'Avent, dans toutes les églises, dans ce qui est lu, dans les textes qui sont lus et priés, on retrace toute l'aventure du salut, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est l'aventure de Dieu, et on est appelé à se rappeler qu'on est situé dans cette aventure. Moi, je me rappelle, avant d'être chrétien, j'avais soif, je voulais vivre une vie qui est de l'aventure, quoi. Alors là, on est servi, là. Là, on est servi, que ce soit le collège Daniel depuis le début, avec toutes ces aventures et tout ça. Et là, ça continue avec Josué. On n'en sort pas des aventures. Parfois, on aimerait bien, t'es tranquille, t'es peinard, tu vas dans un lieu, tu sais où tu vas au culte, quoi. Tu sais, tu connais le lieu. Mais nous, ça change sans arrêt. Donc, c'est toujours l'aventure, mais c'est l'aventure de Dieu. Et donc, c'est l'aventure du salut. Donc, peut-être un premier éclairage sur le mot « attente », l'attente de la foi. La semaine dernière, Alain nous a encouragé à la notion de foi. Et nous étions encouragés à creuser de nouveau, à fortifier notre foi. Et là, j'aimerais donner un aspect de la foi dont on parle absolument très peu. C'est l'aspect de l'attente de la foi. Et ça, c'est un aspect de la foi aussi, hein. C'est un aspect de la foi. Et Jésus et Paul, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bien sûr, ils parlent de la foi, et ils présentent bien sûr Abraham, le père de la foi, mais non seulement Abraham comme le croyant qui est fidèle dans cette attente de la foi, mais l'exemple à suivre. C'est-à-dire que l'attente d'Abraham, cette foi qui attend, etc. Toujours dirigé vers Dieu, mais une attente phénoménale, une attente sans arrêt. Eh bien, les Épîtres nous disent, eh bien, c'est l'exemple à suivre. C'est-à-dire, un chrétien qui n'a jamais vécu l'attente de la foi, il n'est pas dans la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est pas la foi qui reçoit tout de suite. Il y a un aspect de la foi comme ça, mais il y a un aspect de la foi qui est une longue attente. Et c'est cet aspect-là qui est célébré dans l'Épître aux Hébreux en particulier, et que Jésus souligne. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit sans équivoque que les réalisations des promesses faites à Abraham, à ses héritiers, l'objet de leur foi a été, je cite, « elle a été vue et saluée de loin hein, », en confessant qu'ils étaient étrangers résidant temporaires sur la terre. Et puis il est dit « c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans un pays étranger, car il attendait. » Intéressant. Abraham, il attendait. Il attendait quoi? Il attendait ce qu'il a vu. Il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette cité, ça nous parle du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est présent, qui est pleinement manifesté, bien sûr, dans le ciel, mais qui est appelé à venir sur la terre. C'est pour ça qu'on prie que ton règne vienne. Donc, il a vu la cité céleste, c'est-à-dire il a vu le royaume de Dieu. Et donc, il a attendu parce qu'il savait que ça allait commencer à descendre. Et cette descente du royaume de Dieu, ça a commencé par la venue de Jésus, Noël, qui est le début. Cette incarnation, c'est le changement d'atmosphère, c'est une portion du ciel qui vient sur la terre, qui quittera plus jamais, et qui va s'étendre jusqu'à toucher toute la terre, à restaurer et guérir toute la terre. C'est ça Noël. C'est ça Noël, c'est cette vision aussi de la fin eschatologique. Donc Abraham, il a vu la montagne sur laquelle un jour à venir, eh bien la cité de Dieu allait être bâtie, Sion. Et un jour loin, il a vu cette montagne sur laquelle il a sacrifié son fils, mais il a vu là que Dieu allait pourvoir sur cette montagne. Il a vu. Et donc, il a attendu. Et la foi d'Abraham, elle est fondée donc sur les choses qui ont été vues dans l'esprit, saluées de loin et attendues. Et toute la vie d'Abraham, ça va être le sens de sa vie, ça va être l'attente de la foi. Et donc, pour Abraham, la promesse vue et saluée de loin, par les yeux de la foi, ça représentait des réalités spirituelles, hein, inébranlables. En tant que chrétien, ce que nous voyons, c'est ce royaume de Dieu. Il est inébranlable. Et Jésus a dit, il est déjà parmi nous. Donc, il nous demande de le voir, de le célébrer, de le prier et de l'incarner. Noël, c'est ça. Et l'Avent, ça nous parle de cette méditation de ce royaume de Dieu. Donc, Abraham a vu ça. Il avait le regard fixé sur cela. Et il a tressailli d'allégresse. Jean 8 parle d'Abraham. Il a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc, Abraham a vu le jour de la manifestation de Jésus, sa venue sur la terre. Il l'a vu. Et nous, alors, mais c'est passé Noël. Oui, mais attention, l'Avent, c'est pas seulement la méditation qu'il est venu, mais c'est la méditation qu'il reviendra. Et ça, c'est l'Avent aussi. Donc, nous, comme Abraham, quelque part, est-ce que nous voyons cela? Est-ce que nous voyons ce Christ qui reviendra? Et donc, la joie d'Abraham, c'est qu'elle a jailli de l'attente du jour où Dieu accomplirait définitivement son projet, le salut par son oint, Jésus, sauveur, prophète, prêtre et roi. Donc la période de l'Avent, vous voyez, en fait c'est un cheminement. C'est un cheminement. On est appelé à cheminer, le cheminement de la foi. Et dans la Bible, le père de la foi, Abraham, il est le premier à s'être mis en chemin justement. Alors nous, on est une communauté en chemin. Voilà, d'ailleurs toute église est en chemin. Et attention, celui qui se pense arriver, il n'est plus dans la foi. Et donc il y a toujours une tension entre ce qu'on voit avec les yeux de la foi et ce qu'on voit avec les yeux humains. Mais cette tension, c'est ce qui fait avancer. C'est ce qui fait avancer. Alors il est dit d'Abraham, il est mort sans avoir obtenu les choses promises. Mais il les a vues, saluées de loin, en confessant qu'il était étranger et immigrant sur la terre. À la fin de la vie d'Abraham, le bilan de la promesse qui est à l'origine de sa vocation, c'est regarder le bilan, est très modeste le bilan, très très modeste. Il n'a eu qu'un seul fils avec Sarah, 25 ans après avoir entendu et répondu à l'appel de Dieu, 25 ans, 25 ans, tu as une promesse et tu vois rien, 25 ans. Hein. Et puis, la seule terre qu'il n'ait jamais possédée, je te posséderai une grande terre, ah oui mais... La seule terre qu'Abraham ait possédée, c'est la terre qu'il a achetée pour le caveau, le tombeau de sa femme. C'est un prémisse, mais c'est quand même, à yeux humains, mais c'est quoi cette foi d'Abraham? Tu fais le bilan. Dans nos critères d'évaluation aujourd'hui, je peux vous dire, Abraham, il passe pas. Hein, il passe pas. Il passe pas. Attention à comment on évalue la foi. Donc, Abraham était en cheminement. La foi d'Abraham, ça n'a pas été une marche qui le faisait aller de réussite en réussite. J'ai un peu l'image de, excusez-moi, j'ai parfois une culture de BD là. Gaston Lagaffe, là, je sais pas comment elle s'appelle la fille, la secrétaire qui gambade, qui sautille là, voilà. Elle sautille quoi. C'est pas ça la vie chrétienne. Tu sautilles de réussite en réussite. Mais Abraham, c'est pas celui qui sautille de réussite en réussite. Hein. C'est pas ça Abraham. Et là, donc, dans les méandres de son histoire, en fait, Abraham n'a jamais cessé d'attendre. La Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Et c'est ça que Dieu souligne. Et c'est pour ça, c'est ça que Dieu veut réactiver. Dans cette période de l'Avent, Romains 8, en effet, nous sommes sauvés, mais en espérance. Remarquez ce verset-là. peut-être nous évangéliques, on a été sauvés. Oui, mais Dieu dit, non seulement tu as été sauvé, mais tu seras sauvé aussi. On est sauvé en espérance. C'est-à-dire que le plein salut n'est pas encore complètement manifesté. Nous sommes en cheminement, même pour le salut. Et nous, souvent, on dit le salut, c'est passé. Attention, le salut, c'est un processus qui a commencé et qui va aboutir jusqu'à la transfiguration, passer par la mort, résurrection, etc. On n'a pas fini avec le salut. C'est un cheminement aussi. Voyez. Donc, la patience, dans cette attente, on en a besoin. Et c'est le fruit de l'esprit. Alors, on a eu les plans de la maison du tissage, par exemple. C'est pas fini. C'est pas fini. Il faut les déposer. Il faut que ça soit accepté. Ensuite, il faut faire les travaux en conséquence par rapport au plan, etc., etc. Donc, on n'a pas fini, mais on attend dans la foi. Habacuc, chapitre 2. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Il y a des prophéties peut-être que tu as reçues dans ta vie. On a reçu des prophéties au niveau de la communauté Josué, pour la France aussi. Mais Dieu nous dit, attends-la. Vous savez, la déception, c'est ne plus attendre. La déception, tu arrêtes l'attente. Et il n'y a plus rien qui se passe. Non, la foi, c'est l'attente. Il y a une dimension d'attente dans la foi où tu ne vois pas la réalisation, mais tu permets sa réalisation parce que tu as une attitude d'attente qui est celle d'Abraham. Donc si elle tarde, l'accomplissement, la prophétie, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite devant lui. Mais le juste vivra par la foi. C'est là qu'il y a ce fameux texte, ce juste, le juste vivra par la foi. C'est ce que Luther va tout d'un coup avoir comme révélation. C'est dans un contexte d'attente. Même ce verset-là, le juste vivra par la foi, il y a le contexte d'attente. Dans une interview, il y a un rabbin qui est mort en 2020, là récemment, qui s'appelle Adin Steinsaltz. Il raconte qu'un de ses amis a obtenu le prix Nobel de physique. Alors il lui a posé la question de savoir si dans son éducation, un élément permettrait de comprendre qu'il ait atteint un tel niveau d'excellence. Comment t'as fait? C'est quoi l'éducation que t'as eue pour avoir ce prix Nobel? Et son ami lui a répondu, quand j'étais enfant, lorsque je rentrais de l'école, mon père ne me demandait jamais si j'avais eu de bonnes notes. Mais il me disait toujours, as-tu posé quelques bonnes questions aujourd'hui? Vous voyez? Le fait de questionner, et Dieu voudrait qu'on le questionne. Chercher Dieu, c'est ne pas avoir les réponses à toutes les questions, mais c'est lui poser les questions. Et Dieu répond, mais on n'aura jamais fini avec des questions. Et parfois, il n'y a pas de réponse tout de suite. Voilà. Mais Dieu aime qu'on pose des questions. Il y a une sorte de, il y a une vitalité, on n'est pas statique. On a des questions. J'espère que vous avez des questions aujourd'hui encore. Des choses qu'on ne comprend pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et le Seigneur, il honore ceux qui posent des questions. Donc, le mot attendre renvoie à la notion de patienter. Vive l'avant. C'est une façon de ne jamais éteindre la question de Dieu. Voyez, c'est une étape sur le chemin qui conduit au prix Nobel de la foi. C'est beau ça. Bon, Dieu agit dans l'attente. Ça alors, Dieu agit dans l'attente. Le mot attendre, ça renvoie à la notion de patienter, bien sûr. Il ne s'agit pas de quelque chose d'inné hein, chez l'être humain, hein. On n'aime pas attendre, hein. Même quelque chose d'opposé à notre culture environnante, hein. L'immédiateté, le bouton t'appuie et puis t'as la réponse, etc. Le résultat, évaluation constante, c'est partout pareil, mais Dieu dit, je veux que tu attendes. Quand on traverse des difficultés, nous nous remettons en question, parfois nous remettons en question Dieu, pourquoi Dieu ne répondit pas? Parce que pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mes problèmes, mes questions? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il ne me réponde pas? Ou encore, Dieu est-il capable de répondre? Toutes ces questions ne sont pas constructives. elle nous empêche en fait de comprendre qu'en fait que Dieu agit dans l'attente. Dieu agit dans l'attente. Donc l'attente, c'est un temps de transformation. C'est un temps où Dieu façonne pour que nous devenions chacun d'entre nous une meilleure version de nous-mêmes. Hein? Et alors, on doit le laisser agir dans cette attente. Dieu agit dans l'attente. Et on connaît tous Sarah, Abraham, la promesse. C'est quand même incroyable. Chaque fois que Dieu fait des promesses, il y a stérilité. Stérilité. Et je crois que c'est pour une œuvre de Dieu, pour une église, tout ça, il y a un passage à passer de stérilité à l'accomplissement des promesses. Donc Dieu promet à Abraham de faire de lui un père, père d'une nation, à quitter le lieu où il était. Alors il arrive en Chaldée, c'est le lieu de... il est en Chaldée, donc c'est le lieu de l'appel, c'est le lieu de l'incompréhension, Sarah qui est stérile, etc. Et c'est le lieu où tu expérimentes cette souffrance de stérilité. Tu n'es pas bien, pourtant il y a un appel de Dieu, mais tu es stérile. Et le lieu où tu expérimentes cette souffrance la plus amère peut faire l'objet de la promesse divine la plus puissante et la plus forte. C'est dans ces zones de stérilité que Dieu parle le plus fort. Et la promesse de Dieu repose sur sa puissance, sa grandeur, et non sur nous. Donc, ils commencent le pèlerinage de la foi. Ils arrivent à Charan. Donc, Charan, vous savez, c'est là où ils s'arrêtent. Et Charan, c'est le lieu où la divinité de Charan, c'est le dieu de la fertilité. Est-ce qu'Abraham s'était arrêté là parce que peut-être aussi il cherchait des réponses humaines à la stérilité de son épouse? J'en sais rien, mais heureusement qu'il a abandonné toutes ses idoles, etc., et qu'il a continué sa route jusqu'à Canaan, lieu de révélation et de bénédiction, et Dieu qui se révèle comme El Shaddai. Pour Sarah, lorsque Abraham reçoit la visite des trois anges, on sait qu'il y a Jésus parmi ces trois, eh bien, Dieu agit non seulement dans l'attente en un seul mot, mais Dieu agit dans l'attente en deux mots. Parce que Sarah, elle était dans l'attente. Et quand elle entend ce temps, alors il lui dit « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est là, dans l'attente. » Moi, j'aime bien ce jeu de mots-là. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah-t-elle rit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc dans l'attente, elle ne croyait pas en fait en l'accomplissement de cette promesse, car ça tardait à arriver quoi. Elle voyait son corps, le corps de son mari, et elle riait un peu de cette promesse en disant « Mais c'est quoi que tu nous fais là Seigneur ?» Et donc vous voyez, Sarah se demandait comment avoir cet enfant étant donné qu'en plus ils étaient vieux, avaient perdu tout désir. C'est marrant ça aussi dans l'écriture, tout désir. D'aller l'un vers l'autre, de réessayer encore. Et donc, Dieu nous voit dans nos tentes. Je sais pas dans quelle tente tu es aujourd'hui, mais Dieu parle et il te voit dans ta tente. Et même si Sarah a été un peu incrédule, etc., et bien cette puissance de résurrection et de vie a fait que la promesse s'est quand même activé, mais il a fallu que le désir soit réactivé dans le couple. Et ça nous parle du désir que Dieu veut réactiver dans nos vies de chrétiens pour être le chemin de l'accomplissement de la promesse. Le désir. Dieu veut réactiver le désir. Voyez. Et donc, moi je trouve ça une magnifique histoire qui parle de l'Église aussi, un peu Sarah, Église stérile parfois, mais Dieu veut réactiver le désir. Dans cette période de l'Avent, nous sommes appelés à réactiver le désir. Luc 12, 36, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. L'attente, Jésus célèbre ceux qui s'attendent à lui et ceux qui attendent. Maintenant regardez, on va bientôt fêter Noël, mais le Christ, alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal. Dieu a envoyé son Fils. C'était un projet de Dieu. Oui. Mais ce projet de Dieu, il s'est manifesté dans un cadre où il était attendu. Et moi, je trouve que Dieu travaille toujours avec l'humanité, avec les hommes, avec la foi. Il pourrait faire tout seul, mais il a prévu de ne pas faire tout seul. Et donc, il a fait en sorte que des gens attendent le Messie, et que cette attente soit tellement forte et nourrie par l'espérance et la foi, qu'il est venu répondre à cette attente. La venue de Jésus, bien sûr, est le cœur de Dieu, mais elle répondait à une attente. Et on voit ça, Luc 2, versets 25 à 32. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Jésus le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël ton peuple. » Donc voyez, il l'attendait. Qu'est-ce que tu attends? Posons la question aujourd'hui, est-ce que tu attends quelque chose? Est-ce qu'on s'attend à quelque chose de Dieu? Où est-ce qu'on en est du désir et de l'attente? Ça, c'est une question qu'on est appelé à se reposer en tant qu'individu, en tant que communauté. Et puis il y avait aussi Anne, pas ma sœur, mais la prophétesse, un peu pareil d'ailleurs, âgée de 84 ans. Ça vient. Et depuis l'âge de 24 ans, moi c'est un truc de dingue, elle servait Dieu dans le temple, nuit et jour, dans le jeûne et la prière, dans l'attente. Et Dieu lui a donné de voir le résultat et le fruit de son attente. Vous vous rendez compte? C'est des histoires de fous ça. C'est des histoires d'attente. Combien les gens auraient pu se moquer de cette attente. Écoute, ça fait 2000 ans là qu'on attend. Qu'est-ce que tu fais encore d'attendre? T'as pas baissé les bras? Le Christ est venu parce qu'un peuple entier l'attendait aussi. Et donc des gens comme Siméon, comme Anne attendaient. Luc 3, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Elle était toujours dans la louange, imagine un peu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc ouais. Et puis, si on prend les Écritures, Lamentation, par exemple, Jérémie, l'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent. Alors il y a d'autres traductions qui parlent d'espérer. Mais l'espérance et l'attente, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose, et donc je continue à croire, à espérer. Et puis Hébreux 10, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Vous remarquez la différence? Vous avez accompli la volonté de Dieu, mais vous n'avez pas encore obtenu. Hein? Je répète, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis, deux. La persévérance, elle est où? Elle est entre le fait d'avoir obéi, mais pas avoir eu la réponse. Et donc, tu persévères jusqu'à cette réponse. Donc l'avant, ça nous parle de l'attente, de l'avènement du Christ parmi les hommes. Il est déjà venu, mais il reviendra. Et donc c'est une dimension qui est d'attente. C'est la première église, elle attendait le retour de Jésus. C'est une des caractéristiques de la première église, c'est qu'elle était dans l'attente, dans l'expectative. Le Maranatha, c'était le cri de la première église. Maranatha, Seigneur, reviens. Quel désir! La gloire de Dieu, elle se manifeste avec la force du désir et de l'attente. Et donc, l'avant, c'est un appel à veiller. Hein, veiller, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. D'ailleurs, c'est un des textes qui est lu dans les liturgies catholiques et protestantes de l'Avent. Donc, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, veillez, dit l'Évangile, ne vous laissez pas assoupir. Tout à l'heure, il y a une parole, hein, pendant la louange, là ou après, qui disait « réveillez-vous ». Mais voilà, c'est en plein dans l'Avent, ça. Ne vous laissez pas assoupir par le temps qui passe, par le découragement qui use, persévérez. persévérer. Persévérons et n'abandonnons jamais le combat contre la dégradation de l'étonnement, la capacité de s'émerveiller ou de l'amour. Vraiment, tenons bon les amis. Et vous savez, il arrivera un jour où on aura obtenu une partie des promesses et on est appelé à célébrer. On célébrera cette attente qu'on a vécue en tant que Josué. Cette attente dans plusieurs domaines, pas seulement les attentes maternelles, matérielles. Donc voyez, nous sommes tendus vers l'attente de Jésus qui va revenir en gloire, en majesté. Donc, vous voyez, quelqu'un disait, il faut être riche, heureux et en bonne santé pour ne pas s'attendre à Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que, bon, on peut être riche, heureux et en bonne santé. Et puis s'attendre à ce que Dieu touche notre entourage. Mais le pire qui puisse arriver, c'est l'autosatisfaction. Alors, on ne va pas aller dans la flagellation, mais dans l'attente de Dieu. Et l'attente se transforme toujours en prière. En fait, ce qu'on prie traduit ce que nous attendons. Et donc, si vraiment on est dans l'attente, eh ben, on se met à prier, Seigneur. On prie pour cette mère de famille qui a perdu son enfant. Nous, en tant que communauté Jésus, on porte en particulier, je vous rappelle, de prier pour cette fille d'Agnès, Alexandra, et sa fille. C'est pas des situations faciles. On prie aussi pour ceux qui sont seuls hein, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, pour les populations désespérées aujourd'hui, les temps de guerre, etc. Donc on prie et puis parce qu'on a une espérance et parce qu'on croit que Dieu veut se manifester. Donc vous voyez, Jésus est venu parce qu'il était attendu et pas seulement parce qu'il était envoyé. Il était attendu. Et donc le désir, c'est un autre point, donc le mot attente, le mot désir dans l'avant. Le désir dans l'Ancien Testament, c'est tout l'Ancien Testament. C'est tous les prophètes en particulier. Et Esaïe, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger de l'argent, manger sans argent, sans payer, du vin et du lait, la gratuité. Donc les prophètes, dans l'exil, ils s'efforcent de réveiller le désir du peuple. C'est une des actions des prophètes, c'était de réveiller le désir. Osez, il compare Dieu à un homme épris d'une femme infidèle, Israël, qu'il s'évertue de reconquérir. Je cite Osée 2, regardez ça, c'est pourquoi je vais la séduire. C'est Dieu qui parle, hein. Je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut nous séduire. Il veut nous séduire. Alors, quelle est la dernière fois où tu as été séduit? Voilà. Alors, nos séductions qu'on vit sur cette terre sont rien comparées à ce que Dieu veut faire. Dieu veut séduire son Église. Quand Dieu regarde la communauté Josué, il veut nous séduire. Il veut la séduire. Il nous courtise. Il veut nous séduire. Les psaumes, c'est des aspirations aussi de l'homme blessé qui vient comme une biche, hein, qui languit auprès des eaux vives. Ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Voyez, tous les psaumes de David, beaucoup, sont des psaumes du désir. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau, etc. Le cantique des cantiques, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il a disparu. Sa fuite m'a fait rendre l'âme, et je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. C'est une quête perpétuelle. Elle le trouve, hop, elle le perd, et elle continue à le chercher. Ça, ce cœur-là, est un cœur et une quête que Dieu honore. Donc l'avant, c'est réactiver le désir, c'est réactiver la quête. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Jésus attire indistinctement à lui les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les juifs, les païens, les savants, les simples. Il attire tout le monde. Ceux qui ont soif, en fait. Ceux qui ont soif. Ceux qui sont avides d'une parole de vie, d'une guérison physique, spirituelle. En fait, ils sont blessés de désir. Il y a une attente chez ces gens. Et donc, heureux les affamés, va dire Jésus. Heureux les affamés de justice. Et tandis que la parole conclut, il fait plusieurs miracles, lorsqu'il dit « ta foi t'a sauvé », c'est l'ardeur du désir des gens, plus que leur c'est pas leur perfection morale, hein, qui a fait que les miracles sont venus. Les prostituées, les pécheurs, etc., ils venaient à Jésus, ils étaient guéris. C'est pas leur perfection morale qui a attiré la guérison, c'est la soif. Et donc, Dieu veut cultiver notre soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Dieu veut vraiment cultiver cette soif. Et l'esprit apocalypse, l'apocalypse termine par le désir. L'esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur !» C'est le désir de Dieu. Hein. Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et cette attente, elle se nourrit comme l'attente d'Israël, du Messie. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Abraham, il a reçu une parole de Dieu. Et donc son attente, c'était pas une attente dans le vide. C'est une attente autour et nourrie par une parole et une promesse. L'attente de Dieu aussi pour nous, c'est une attente qui se fonde sur la parole de Dieu. Et ces lectures comme Ésaïe 11, par exemple, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit d'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Donc ça, c'est l'attente d'Israël. Donc nos prières, moi je vous invite dans cette période de l'Avent à prier la parole. À prier la parole de Dieu. Et ces lectures proposées, comme Ésaïe 11, comme l'ange Gabriel qui vient chez Marie, et puis Marie qui dit, ben, qu'il me soit fait selon ta volonté, le cantique de Marie, tout ça, à commencer à méditer ces textes dans cette période de l'Avent, pas seulement les méditer, mais les prier. Tout ce qui est autour de Jean-Baptiste aussi, qui vient pour annoncer le roi qui vient, appelle à préparer le chemin du Seigneur. C'est l'Avent, ça aussi. C'est pour ça que les textes qui sont en rapport à Jean-Baptiste sont vécus aussi. Donc, vous voyez, l'Avent, ça nous parle d'une période qui nous appelle à la conversion intérieure. Et je termine par cette tradition de la couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent. Alors, je sais pas si vous le faites ou pas, mais c'est, vous savez, c'est, bon, l'histoire de cette couronne, il paraît, ça remonte aux années 1850, donc c'est assez récent quand même. Hein. C'est un pasteur allemand près de Hambourg. Il s'appelle Johann Heinrich Wickern. Et donc, il est au plafond d'un foyer protestant d'accueil de jeunes orphelins. Et donc, il s'agissait de contenir l'impatience des orphelins par rapport à Noël qui vient. Et donc, c'est une grosse roue de bois sur laquelle étaient fixés quatre grands cierges blancs qui symbolisaient les dimanches de l'Avent et puis des plus petites bougies qui symbolisaient chaque jour qui précède l'Avent. Et donc, toutes ces bougies allumées l'une après l'autre symbolisaient la lente approche, voyez, vers la vraie lumière. Et donc, apparut aux hommes la nuit de Noël. Et donc, c'est le soir, lorsque la prière est accompagnée d'une lecture biblique, chaque bougie est allumée et elle rajoute de l'intensité à la flamme des autres. Et cette coutume a retenu les quatre grandes bougies, qui sont les quatre bougies de la couronne de l'Avent. Dans la tradition chrétienne, évidemment, la couronne symbolise la royauté. Donc Jésus, qui est venu comme un enfant, sauveur, mais qui est mort avec marqué roi des Juifs, et qui va revenir en tant que roi. La couronne est un signe aussi qui annonce la royauté. La couronne, c'est aussi la couronne d'épines, mais cette couronne de l'Avent, elle est faite elle est verte, et le vert nous parle de la vie. Et puis la couronne nous parle aussi de la sagesse. Et donc, l'interprétation la plus courante des bougies, alors, on trouve deux traditions aussi intéressantes l'une que l'autre. Il y a une première tradition, c'est la plus fréquente. La première bougie, c'est relatif à Adam et Ève, le pardon accordé. Et puis, ils mourront sur la terre, mais ils vivront en Dieu. Deuxième bougie, foi avec Abraham, la foi d'Abraham, les patriarches, jusqu'à la terre promise. Donc cette notion d'attente et de foi, célébrée par la deuxième bougie. Troisième bougie, c'est la joie. La joie avec David qui célèbre dans le tabernacle de David l'alliance avec Dieu. La joie de la foi. Et puis la dernière bougie, c'est, selon cette première tradition, la paix, le shalom. La justice que les prophètes annoncent depuis tellement longtemps. Donc chaque fois Quand on allume, on se rappelle les paroles qui vont avec. Et on les prie, on les désire. Voilà. Et puis, il y a une deuxième tradition, c'est les vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance, l'amour. Et vous allez me dire, la quatrième, c'est quoi? Eh bien, c'est la paix, le shalom. Le shalom. Et donc, voilà pourquoi on allume petit à petit 4 bougies. Alors, ce genre de symbole aide la foi. Remplace pas la foi, mais il aide la foi, il accompagne la foi. Et moi je trouve que ça pourrait être intéressant. On le faisait quelques années à Josué dans les locaux, on allumait les bougies de l'avant, mais sans, il me semble pas qu'on a enseigné dessus quelque chose. En tout cas, voilà ce que ça veut dire. Et je termine par ces lumières de bougies. Juste, je vais lire quelques textes. Vous les connaissez déjà, mais on veut vraiment les recevoir comme quelque chose de nouveau. Psaume 18-28. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Psaume 18-28. Psaume 27-1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 39:9. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 42:3. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Psaume 97:11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour celui dont le cœur est droit. Psaume 104:2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Psaume 112:4, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Psaume 119:105, ta parole, vous connaissez bien, est une lumière à mes pieds, à mon sentier. Elle éclaire mon chemin. Vous avez Proverbe 13, la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. La lumière des justes est joyeuse. La période de l'Avent, il y a de la joie. Et même dans le monde, il y a quelque chose, il y a une attente qui est là. Et quand vous demandez à un enfant, est-ce que tu préfères avant Noël ou après Noël? Posez la question, vous allez voir, il préfère avant. Il préfère l'avant. Parce qu'il y a l'attente. Il y a la magie de l'attente. Et puis vous, qui êtes tous des enfants ici, nous sommes tous des enfants, l'avant. Alors, parents qui êtes là, ou grands-parents, mais cultivez cette attente. Faites monter la pression là, de l'attente, c'est bon. Et puis voilà, Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ça, on prie pour Israël aussi, pour ce qui se passe en ce moment. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et bien cette même lumière reviendra en Israël pour éclairer toutes les nations. Et on prie, on est appelé à prier cette lumière. Et Ésaïe 58, voici le jeûne auquel je prends plaisir, rappelez-vous, hein, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, qu'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et dans cette période de Noël, soyez attentifs aussi à faire du bien. Elle me dit, on n'est pas sauvé par les œuvres. Oui, mais les œuvres montrent ce qui est dans notre foi. Donc cette année, j'ai pas eu vent d'une opération des boîtes comme on avait les autres années. Il y a cette possibilité de bénir Israël, comme on l'a fait déjà en tant que communauté. Mais soyons attentifs à cette notion de bénir les pauvres. Et Dieu dit, bon, voilà, ta lumière grandira par rapport à ça. Donc je termine en disant, prions pour que ce désir soit réactivé, le désir de Dieu, le désir de sa parole, le désir de sa présence. Priez pour que nos attentes, l'attente en tant que communauté, soit nourrie par la foi, par l'espérance et s'accompagne de persévérance jusqu'à l'accomplissement des promesses. Et prions pour qu'on expérimente, vous allez me dire peut-être on en a déjà assez, mais peut-être pas, que l'Avent soit une période où on expérimente de nouvelles aventures avec Dieu. Alors Seigneur, merci pour cette période de l'Avent. Et Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. Réactive le désir de toi, Seigneur, dans nos vies. Que cette attente ne conduise pas, nos différentes attentes ne conduisent pas à de la déception ou à du désespoir. Mais que ces attentes, comme Abraham, soient nourries de ce qu'on voit, ce qu'on a vu de toi, et ce qu'on a entendu de tes promesses. Seigneur, merci pour la foi d'Abraham que tu réactives dans notre communauté Josué, afin jusqu'à l'héritage, le plein héritage. Merci Jésus. Et vous savez, lorsque nous étions au réseau héritage à Chalon-sur-Saône il y a 3 semaines, ils ont prié pour nous, nous étions plusieurs églises, plusieurs œuvres, et il y a eu un temps prophétique assez fort. Et quand ils ont fait venir les quelques-uns de Josué que nous étions, il y a eu cette parole qui disait « Je vois une sève qui monte des racines, une grosse sève, ça monte. » Et vous vous dites « Mais il y a tellement de choses. » Mais vous dites « C'est pas fini, je vois d'autres branches qui poussent, des bourgeons, etc. » Donc il y a une sève qui monte et qui est appelée à être... Il y a eu élagage, travail de démondage, mais Dieu dit voilà, la sève, je la fais monter et elle correspond au désir que tu as de lui. Alors merci Seigneur pour la sève dans nos vies, dans nos familles, qu'elle monte et que tous les fruits que tu as prévus puissent se manifester en leur temps. Au nom de Jésus. Amen.